Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'île de France.
Bienvenue sur IDFM Radio avec L'Onde Poétique, une émission de l'Ouvre-Boîte à Poèmes, l'association poétique et littéraire de la vallée de Montmorency.
Tous les dimanches soirs de 21h à 22h sur IDFM Radio, L'Onde Poétique vous propose une émission.
Dis-moi ta poésie, rencontre francophone, l'invitation au voyage et fragments poétiques. Bonsoir, bonsoir amis auditeurs. Merci de nous rejoindre sur IDFM Radio pour une émission de L'Onde Poétique. Ce soir, ce sont les fragments poétiques, une émission thématique qui est consacrée aux parfums en poésie, ou autrement dit la poésie des parfums. Parmi les cinq sens, effectivement, l'odorat joue un rôle particulier. Il est parfois considéré comme moins primordial que les autres sens qui captent dans notre environnement des informations qui nous permettent de vivre. L'odorat, qu'on appelle aussi olfaction, reçoit des substances volatiles en suspension dans l'air qui nous entoure. Et il y a le terme générique « odeur » qui caractérise toutes ces substances. Parmi ces odeurs qui peuvent être de toute nature odorante, il y a les parfums et les fragrances qui sont a priori des odeurs agréables. Ça n'est pas toujours évident, d'ailleurs, de distinguer les odeurs agréables des odeurs désagréables, ou voire carrément insupportables. Des facteurs culturels, individuels, historiques peuvent intervenir dans l'appréciation des odeurs. Et dans notre époque, qui est devenue, on peut dire, très hygiéniste, surtout dans les pays dits développés, c'est-à-dire ceux où l'économie de marché permet à chacun d'accéder à un certain confort, la capacité de supporter des odeurs fortes s'est fortement affaiblie. À d'autres époques, on n'était pas aussi sensible aux odeurs fortes et aux mauvaises odeurs. Le roi Henri IV est un exemple historique de cet état de fait. Il vivait beaucoup à cheval, il ne se lavait jamais et il consommait énormément d'ail lors de ses repas. Au total, on peut dire que le roi puait, mais c'était le roi et ses nombreuses maîtresses étaient bien obligées de supporter sans rien dire. Quand il devait se rendre chez une de ses plus chères amoureuses, la fameuse Gabrielle d'Estrée, il lui écrivait « Surtout, ne te lave pas, j'arrive !» Alors prenons l'exemple de l'œuvre certainement la plus remarquable, écrite sur le thème des parfums. C'est le livre de Patrick Susskind, « Le parfum, histoire d'un meurtrier ». Ce livre qui nous conte l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille, parfumeur de génie, et assassin au XVIIIe siècle. Le livre commence par les odeurs immondes, le jour où sa mère, marchande de poissons, accouche de grenouilles en plein marché public. Écoutons un extrait, qu'on peut dire nauséabond, de cette introduction.
Au XVIIIe siècle, vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus abominables de cette époque, qui pourtant ne manqua pas de génie abominable. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Son génie et son unique ambition se bornèrent à un domaine qui ne laisse point de traces dans l'histoire, au royaume évanescent des odeurs. À l'époque dont nous parlons, il régnait dans les villes une puanteur à peine imaginable pour les modernes que nous sommes. Les rues puaient le fumier, les arrières-cours puaient l'urine, les cages d'escalier puaient le bois moisi et la crotte de rat, les cuisines le chou pourri et la graisse de mouton, les pièces d'habitation, mal aérées, puaient la poussière renfermée. Les chambres à coucher puaient les draps graisseux, les courtes pointes moites et le remugle âcre des pots de chambre. Les cheminées crachaient une puanteur de soufre. les tanneries, la puanteur de leurs bains corrosifs et les abattoirs, la puanteur du sang caillé. Les gens puaient la sueur et les vêtements non lavés. Leurs bouches puaient les dents gâtées. Leurs estomacs puaient le jus d'oignon et leur corps, dès qu'ils n'étaient plus jeunes, puaient le vieux fromage et le lait aigre et les tumeurs éruptives. Les rivières puaient, les places puaient, les églises puaient, cela puait sous les ponts et dans les palais. Le paysan puait comme le prêtre, le compagnon tout comme l'épouse de son maître artisan. La noblesse puait du haut jusqu'en bas et le roi lui-même puait. Il puait comme un fauve et la reine comme une vieille chèvre, été comme hiver. Car en ce 18e siècle, l'activité délétère des bactéries ne rencontrait encore aucune limite. Aussi n'y avait-il aucune activité humaine, qu'elle fût constructive ou destructive. Aucune manifestation de la vie en germe ou bien en déclin qui ne fût accompagnée de puanteur.
Les odeurs passent donc par le sensuel, le charnel, l'affectif, voire l'érotique, et les poètes sont les plus aptes à décrire tout ce que peuvent évoquer les parfums. Charles Baudelaire a été l'un des plus sensibles aux parfums. On le retrouve dans plusieurs poèmes des Fleurs du Mal. En voici deux parmi les plus marquants, le parfum.
Lecteur, as-tu quelquefois respiré avec ivresse et lente gourmandise ce grain d'encens qui fleurit une église, ou d'un sachet le musc invétéré? Charme profond, magique, dont nous grise dans le présent le passé restauré. Ainsi, l'amant sur un corps adoré du souvenir cueille la fleur exquise, de ses cheveux élastiques et lourds, vivant sachet encensoir de l'alcôve, une senteur montée sauvage et fauve, et des habits mousseline ou velours, tout imprégné de sa jeunesse pure, se dégageait un parfum de fourrure.
Le second poème de Baudelaire, Parfum exotique. Quand, les deux yeux fermés en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux, je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone. Une île paresseuse où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux, des hommes dont le corps est mince et vigoureux et des femmes dont l'œil par sa franchise étonne. Guidé par ton odeur vers de charmants climats, je vois un port rempli de voiles et de mâts, encore tout fatigué par la vague marine. Pendant que le parfum des vers tamariniers qui circulent dans l'air et m'enflent la narine se mêle dans mon âme au chant des mariniers.
Tous les parfums sont évocateurs chez Baudelaire. Le parfum mystique de l'encens, le parfum érotique du corps des femmes, les parfums exotiques, les odeurs animales ou végétales. Mais lorsqu'on parle de parfum, la première sensation qui nous vient le plus souvent, c'est le parfum des fleurs, et particulièrement celui de la rose. Combien de poètes ont célébré la rose, sa beauté et ses parfums ? Remontons dans le temps, avec le poète Jean de La Taille, né en 1533 et mort en 1611. Écoutons son poème « Le blason de la rose ».
Aux uns plaît l'azur d'une fleur, aux autres une autre couleur. L'un du lys, de la violette, l'autre blasonne de l'œillet, les beautés ou d'autres fleurettes, l'odeur ou le teint vermeillé. À moi, sur toute fleur déclose, plaît l'odeur de la belle rose. J'aime à chanter de cette fleur le teint vermeil et la valeur dont Vénus se pare, et l'aurore de cette fleur qui a le nom d'une que j'aime et que j'honore et dont l'honneur ne sent moins bon. J'aime toute fleur déclose à chanter l'honneur de la rose. la rose et des fleurs tout l'honneur, qui en grâce et divine odeur toutes les belles fleurs surpassent, et qui ne doit au soir flétrir comme une autre fleur qui se passe, mais en honneur toujours fleurir. J'aime, sur toute fleur déclose, à chanter l'honneur de la rose. Elle ne défend à aucun ni sa vue ni son parfum, mais si de façon indiscrète on la voulait prendre ou toucher, c'est lors que sa pointure aigrette montre qu'on en doit approcher. J'aime, sur toute fleur éclose, à chanter l'honneur de la rose.
Le comte de Lille, dans un poème au parfum exotique, poème intitulé « Les roses d'Ispahan », mis en musique par Gabriel Fauré, évoque une comparaison sensuelle entre les roses d'Ispahan et la blanche et belle Leïla.
Les roses d'Ispahan dans leur gaine de mousse, les jasmins de Mossoul, les fleurs de l'oranger, ont un parfum moins frais, ont une odeur moins douce. Ô blanche Leïla, que ton souffle léger, ta lèvre est de corail et ton rire léger sonne mieux que l'eau vive et d'une voix plus douce, mieux que le vent joyeux qui berce l'oranger, mieux que l'oiseau qui chante au bord du nid de mousse. Mais la subtile odeur des roses dans leur mousse, la brise qui se joue autour de l'oranger et l'eau vive qui flue avec sa plainte douce ont un charme plus sûr que ton amour léger. Ô Leïla, depuis que de leur vol léger, tous les baisers ont fui de ta lèvre si douce, il n'est plus de parfum dans le pâle oranger, ni de céleste arôme aux roses dans leur mousse. L'oiseau sur le duvet humide et sur la mousse ne chante plus parmi la rose et l'oranger. L'eau vive des jardins n'a plus de chansons douces, l'aube ne dort plus le ciel pur et léger. Oh, que ton jeune amour, ce papillon léger, revienne vers mon cœur d'une aile prompte et douce, et qu'il parfume encore les fleurs de l'oranger, les roses d'Ispahan dans leur gaine de mousse.
Eh bien, restons dans une ambiance orientale avec Marceline Desbordes de Valmore, qui rend hommage au grand poète iranien du XIIIe siècle, Saadi, avec ce poème intitulé « Les roses de Saadi ».
J'ai voulu ce matin te rapporter des roses, mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes que les nœuds trop serrés n'ont pu les retenir. Les nœuds ont éclaté. Les roses envolées dans le vent, à la mer, s'en sont toutes allées. Elles ont suivi l'eau pour ne plus revenir. La vague en apparut rouge et comme enflammée. Ce soir, ma robe encore en est toute embaumée. Respire-en sur moi l'eau d'orant souvenir.
L'herbe qui pousse sur les tombes oubliées. Que reste-t-il de tout cela? Si ça n'est le parfum des roses, le goût léger des choses qui ne durent pas. Innocent que l'on accuse et la justice qu'on apprend, les rires des enfants qui s'usent sur le temps. Que reste-t-il de qui s'endort sur mon livre, ma lampe allumée dans la nuit, nos bras refermés sur le vide infini. Que reste-t-il de tout cela? Cet ami parti avant l'heure, ses maladies sans éclaircie, et l'enfant qui m'offrait des fleurs loin d'ici. Que reste-t-il de tout cela? Si ça n'a
Vous venez d'écouter Anne van der Love, Le parfum des roses. Vous êtes bien sur IDFM Radio dans l'émission de L'onde poétique, tous les dimanches soirs de 21h à 22h. À l'antenne, les fragments poétiques dont le sujet ce soir est les parfums en poésie. Un autre témoignage des réminiscences amoureuses provoquées par les odeurs parfumées avec ce court extrait d'une lettre du poète Joël Bousquet envoyée en mars 1920 à Marthe, son aimée. Elle habitait Béziers, lui Carcassonne. Ils s'étaient aimés quelques années auparavant, mais lui était cloué dans son lit par une blessure reçue en 1914 sur le champ de bataille de la guerre de 14-18. Dans son courrier, Marthe avait glissé une mèche de ses cheveux.
Donc, Carcassonne, 19 mars 1920. Petite Marthe chérie, serait-ce vrai que le temps te semble long à attendre mes lettres? J'aimerais aussi, petite amie, t'écrire très souvent, si je ne craignais pas que mes caresses, trop souvent répétées, ne lassent ton affection. Tout à l'heure, avec joie, je respirais l'odeur blonde de tes cheveux. C'est tout un bouquet de souvenirs que m'a porté ta mèche folle avec son parfum. Les parfums ont une âme mystérieuse. Ils sont le souffle discret, messager, muet de toutes nos tendresses. Bien souvent, à l'heure grise où je ne pensais à rien, un parfum de lilas, le tien, chère chérie, venez jeter ta vision devant mes yeux, ou bien, s'insinuant avec douceur dans mes rêves, les bercer peu à peu jusqu'à ta pensée.
Combien de poètes ont médité autour des parfums? Anna de Noailles, poétesse française d'origine roumaine, née à Paris en 1873 et morte également à Paris en 1933, est l'une des plus représentatives de cette fascination poétique pour le sens olfactif. Elle passe en revue dans le merveilleux poème qui va suivre toutes ces odeurs, tous ces parfums qui nous entourent et qui participent à la beauté du monde.
C'est un extrait du recueil « Le cœur innombrable ». Mon cœur est un palais plein de parfums flottants qui s'endorment parfois au pli de ma mémoire et le brusque réveil de leur bouquet latent. Sachez glisser au coin de la profonde armoire. Soulève le linceul de mes plaisirs défunts et délie en pleurant leur triste bandelette. Puissance exquise, Dieu évoqueur, parfum, laissez fumer vers moi vos riches cassolettes. Parfum des fleurs d'avril, senteur des fenaisons, odeur du premier feu dans les chambres humides, arômes épandus dans les vieilles maisons et pâmés au velours des tentures rigides.
apaisante saveur qui s'échappe du four, parfum qui s'alanguit aux sombres reliures, souvenir effacé de notre jeune amour qui s'éveille et soupire au goût des chevelures, fumée du vin qui pousse au blasphème brutal, douceur du grain d'encens qui fait qu'on s'humilie, extrait de l'iris bleu, poussière de santal, parfum exaspéré de la terre amolie. Souffle des mers, chargé de varech et de sel, tiède enveloppement de la grange bondée, torpeur claustrale, éparse, aux pages du micelle, acre ferment du sol qui fume après l'ondée. Odeur des bois à l'aube et des chaudes espaliers, enivrante fraîcheur qui coule des lessives, baume vivifiant au parfum familier, vapeur du thé qui chante en montant aux solives. J'ai dans mon cœur un parc où s'égarent mes mots, des vases transparents où le lilas se fane, un scapulaire où dort le buis des saints rameaux, des flacons de poison et d'essence profane. Des fruits trop tôt cueillis mûrissent lentement en un coin retiré sur des nattes de paille et l'arôme subtil de leur avortement se dégage au travers d'une invisible entaille. Et mon fixe regard qui veille dans la nuit, c'est un caveau secret que la myrrhe parfume, où mon passé plaintif, pâlissant et réduit, est un amas de cendres encore chaud qui fume. Je vais, buvant l'haleine et les fluidités des odorants frissons que le vent éparpille, et j'ai fait de mon cœur, au pied des voluptés, un vase d'Orient où brûle une pastille.
Voilà pour Anna de Noailles, c'était un très beau poème. Mais les odeurs peuvent aussi avoir une aura maléfique et hallucinatoire avec certains personnages. On a du mal alors à parler de parfum. Pour exemple, reprenons cette œuvre terrible de Patrick Susskind, Les Parfums. À ce chapitre où le héros découvre la complexité d'une odeur particulière, l'odeur humaine.
Il n'entendait pas créer un grand parfum. Il ne voulait pas inventer une combinaison prestigieuse, comme pour Baldini, dans Le Temps, quelque chose qui émerge de l'océan, de la médiocrité, et tourne la tête aux gens. Les essences courantes, néroli, eucalyptus et feuilles de cyprès, n'auraient pour fonction que de camoufler la vraie odeur qu'il se proposait de fabriquer, à savoir l'odeur d'être humain. Il voulait même, si ce n'était provisoirement qu'un piètre succès d'année, prendre cette odeur d'humain qu'il ne possédait pas. Certes, il n'y avait pas une odeur d'être humain, pas plus qu'il n'y avait un visage humain. Chaque être humain avait une odeur différente. Nul ne le savait mieux que Grenouille, qui connaissait des milliers et des milliers d'odeurs individuelles et qui, depuis sa naissance, distinguait les gens au flair. Il y avait un thème fondamental de l'odeur humaine, et au demeurant passablement simpliste, une base continue, graisseuse, sudatoire, aigrelette comme du fromage, et pour tout dire assez répugnante, que tous les humains avaient en commun et au-dessus de laquelle flottaient ensuite les petits nuages infiniment diversifiés qui donnaient les auras individuelles. Mais ces auras, ces codes extrêmement compliqués et tout différents qui définissaient l'odeur personnelle, n'étaient de toute manière pas perceptibles pour la plupart des êtres humains. La plupart des gens ne savaient pas qu'ils avaient une odeur personnelle, et du reste, ils faisaient tout pour la dissimuler sous leurs vêtements ou bien sous des senteurs artificielles à la mode. Il y avait que cette odeur fondamentale, cette fragrance primitive d'humanité qui leur fut familière. Ils vivaient dedans et s'y sentaient bien à l'abri. Et il suffisait d'exhaler cette répugnante odeur universelle pour être reconnu comme l'un des leurs. C'est un étrange parfum que Grenouille créa ce jour-là. Le monde n'en avait jamais connu de plus étrange. Il ne sentait pas comme un parfum, mais comme un homme qui sent. Si l'on avait senti ce parfum dans une pièce obscure, on aurait cru qu'il s'y trouvait un second être humain. Et s'il avait été employé par un humain ayant par lui-même l'odeur humaine, on aurait eu l'impression olfactive d'avoir affaire à deux êtres humains ou, pire encore, à une créature monstrueusement double, telle une forme qui ne parvient pas à fixer des yeux, mouvante et floue, comme quand on regarde au fond d'un lac dont la surface est agitée de vagues.
Après toutes ces données étranges, revenons aux roses. Celle du souvenir avec tout ce qu'elle réveille d'évocation et de sensualité. C'est un poème moderne de Jean-Pierre René, le poète du Club des Poètes à Paris, que nous avons bien connu, Franck et moi, et qui nous offre ce poème, Les Roses d'Avant, publié dans son recueil Les Diagonales.
Les Roses d'Avant. Les Roses d'Avant Blankenberg. D'avant le zout, elle sentait le cacao. Elle sentait le cacao et je n'en savais rien. Elle sentait la mélisse, les roses d'avant. Elle sentait le chat mouillé, le pain chaud et l'orgue, surtout l'orgue. Elle sentait les roses d'avant. Elle sentait les yeux d'enfant, le poids des grains de blé dans la main. La tiédeur qui n'a pas de nom, la tiédeur les habitait. La tiédeur habitait le fond de leur cœur. La tiédeur du cœur des roses que je fréquentais assidûment. D'un jour à l'autre, d'une nuit à l'autre, sans le soupçonner, les roses d'avant, que les moulins ne battent des ailes sur les cartes postales et tombent noires sur blanc, raides morts. Les roses d'avant, qui me taquinait parce qu'elle voulait naître à toute force, naître à mon idée et me hanter avec leurs airs de jeunes mortes. Les fleurs, les roses d'avant Blankenberg, d'avant le zout, d'avant ma guerre privée, les roses d'avant mon secret de polichinelle qui me danse sur la langue. Je suis un géant invisible qui parle du pire. Uniquement du pire, un géant que personne ne rencontre tout à fait. Et je donne des coups de pied à mon autre qui a des yeux de biche et de lion à revendre. Les roses d'avant Blankenberg, d'avant le zout, les roses d'avant mon secret.
Poursuivons donc avec Jean-Pierre René, auprès d'une autre fleur qui est la pensée. La pensée peut être prise comme une petite fleur modeste de nos jardins ou comme le produit de nos activités cérébrales. Jean-Pierre René joue sur cette double identité dans une méditation poétique au titre étrange, frôlant la métaphysique. Homme qui façonnait des fumes-cigarettes.
Homme qui façonnait des fumes-cigarettes. Aveugle bondissant dans un ciel étonné, vous qui tendez les bras comme font les brouettes, vous les dieux du passé, ayez parfois une pensée pour la pauvre fleurette qu'on appelle pensée. Pensez à l'injustice immense de cet abandonné sur le bord des chemins et qui, malgré son nom, jamais n'a pensé ni ne pense, ni ne connaîtra son parfum. Hommes cerveaux étranges, pleins de lumière et de folie, savez-vous qu'il n'est pas une seule mésange pourvue d'un seul prénom pour l'un de ses petits? Hommes qui démontez le manège céleste et croyez l'enfermer dans vos pâles corps nus, prenez garde qu'un soir, qui n'en finira plus, le temps ne reprenne sa veste et parte sans un mot comme il est venu.
Chanson.
Trois gouttes à peine pour t'éreindre à fleur de peau. Si j'ai doucement de la peine quand tu me quittes un peu trop tôt. Tant pis si j'ai le mal de mer quand tu pleures le long de mon cou. Ces trois échappées solitaires aux odeurs sucrées d'embruns doux. Je n'ai sur moi rien d'autre que ce parfum. Rien pour me souvenir d'un automne à Paris. Je n'ai sur moi rien d'autre que ce parfum. Rien pour le retenir un peu plus chaque nuit. Trois gouttes à peine pour dire et dire à demi-mot. Si en silence je te la haine quand il répète un peu trop haut. Tant pis s'il ne sort, c'est tout, de ces anciens flacons de verre. Que les images devenues floues vivraient ces sensations d'hier. Je n'ai sur moi rien d'autre que ce parfum. Rien pour le retenir un peu plus chaque nuit. Je n'ai sur moi rien d'autre que ce parfum. Pour le plus souvent me tenir compagnie. Evanescenti notte di una notte senza te. In queste ore silenziose gocce odorano di me. Essenza di passione, distillato di follia. Lacrima di buon umore che mi tiene compagnia. Je n'ai sur moi rien d'autre que ce parfum. Rien pour le retenir un peu plus chaque nuit.
Eh bien, vous venez d'entendre Le Parfum, qui est une chanson de Christina Marocco. Et je vous rappelle, chers amis auditeurs, que vous êtes bien sur IDFM Radio pour écouter une émission de L'Onde Poétique, cette émission s'intitulant aujourd'hui Les Fragments Poétiques. Eh bien, pour continuer cette émission, au-delà des humains, il faut réaliser que tout être vivant est plus ou moins dépendant des odeurs. Chez le chien, l'odeur est son principal mode de perception du monde, grâce à son rhinocéphale, qui est l'organe du cerveau qui analyse les odeurs et qui est chez lui particulièrement développé. Autre exemple, le papillon aussi, qui est capable de détecter à des distances considérables les hormones sexuelles qu'on appelle les phéromones envoyées dans l'atmosphère par une femelle pour l'attirer. Eh bien, Alphonse de Lamartine, un peu naturaliste comme beaucoup de penseurs du XIXe siècle, a écrit un poème très anthropomorphique sur le papillon. Voici ce poème.
Naître avec le printemps, mourir avec les roses, sur l'aile du zéphyr nager dans un ciel pur, balancer sur le sein des fleurs à peine écloses, s'enivrer de parfums, de lumière et d'azur, secouant jeune encore la poudre de ses ailes, s'envoler comme un souffle aux voûtes éternelles. Voilà du papillon le destin enchanté. Il ressemble au désir qui jamais ne se pose et sans se satisfaire, effleurant toute chose, retourne enfin au ciel chercher la volupté.
Eh oui, pauvre petit papillon. Mais la valeur symbolique du parfum est grande aussi. Le parfum peut être aussi celui des amours, des émois, de la sensualité. Louise Ackermann, qui est une poétesse française née à Paris en 1813 et qui est morte à Nice en 1890, a écrit un poème intitulé « Deux vers d'Alcée », publié dans son recueil « Contes et poésies » en 1863. Alcée était un poète grec de Mytilène, né vers 630 avant Jésus-Christ et mort en 580. Il a chanté la beauté, l'amour, la mort, et il a été en concurrence poétique avec la poétesse Sappho, dont il était en même temps amoureux fou. Cette ambivalence a inspiré à Louise Ackermann le poème qui suit, ce poème intitulé « Deux vers d'Alcée ».
Quel était ton désir et ta crainte secrète ?
Quoi ?
Le vœu de ton cœur, ta muse trop discrète ? Rougit-elle de l'exprimer ?
Alcée,
on reconnaît l'amour à ce langage. Sappho fin vainement que ton discours l'outrage. Sappho sait que tu vas l'aimer. Tu l'entendais chanter, tu la voyais sourire, la fille de Lesbos. Sappho qui sur sa lyre répandit sa grâce et ses feux. Sa voix te trouble, Alcée, et son regard t'enflamme. Tandis que ses accents pénétraient dans ton âme, sa beauté ravissait tes yeux. Que devient ton amour ? L'heure qui le vit naître l'a-t-elle vu mourir ? Vénus ailleurs peut-être emporta tes vœux fugitifs. Mais le parfum du cœur jamais ne s'évapore. Même après 2000 ans, je le respire encore dans deux vers émus et craintifs.
Les cafés, les gares, comment faire?
vois déjà.
Chers auditeurs, vous êtes bien toujours sur IDFM Radio et vous venez d'entendre une chanson de Michel Legrand, Un parfum de fin du monde. Vous êtes toujours sur l'onde poétique et nous allons continuer notre voyage à travers les parfums. Et les odeurs peuvent ainsi intervenir dans un contexte d'horreur et de douleur. L'écrivain franco-marocain Tahar Ben Jelloun, dans son roman « Cette aveuglante absence de lumière », raconte le calvaire 18 années durant des prisonniers du bagne de Tazmamart, au sud-est du Maroc. Incarcérés à la suite de l'attentat manqué et le massacre de Skira en juillet 1971, ils ont été enfermés au fond de cachots-tombeaux, dans le silence et l'obscurité, sans station debout possible, même dans leur prison, dans leur cachot, un peu comme à l'époque des cages de Louis XI. Voici comment Tahar Ben Jelloun transcrit le témoignage imprégné d'odeur, de résilience et d'effroi d'un des prisonniers qu'il a rencontré après sa libération.
La mort a une odeur, un mélange d'eau saumâtre, de vinaigre et de pu. C'est sec et tranchant. Le cri de la chouette était toujours accompagné de cette odeur particulière. On savait d'instinct, hein. On n'avait pas besoin de vérifier. Le matin, quand les gardes apportaient le pain et le café, on leur disait: il y a peut-être un mort, vérifiez. Avec tous les compagnons morts durant ces 18 ans, j'avais acquis une certaine familiarité avec l'ange Azraïl, celui envoyé par Dieu pour cueillir l'âme des mourants. Je le voyais modeste, tout de blanc vêtu, patient et apaisant. Il laissait derrière lui un parfum de paradis. J'étais sans doute le seul à le sentir. Je reconnaissais son passage au petit vent froid qui traversait le bagne et je savais qu'il n'était plus là quand l'effluve de son parfum submergeait ma cellule. Cela était plus joli que l'image de la mort en squelette muni d'une faux. Ce jour-là, je ne sentis ni sa présence ni son odeur. Wakrine devait souffrir encore. Son heure n'était pas arrivée.
L'humour est aussi présent dans l'évocation littéraire et poétique des parfums et des odeurs. Georges Duhamel en est un exemple plaisant avec ce court texte, L'odeur des confitures, extrait d'un recueil intitulé « Fables de mon jardin » publié au Mercure de France en 1936. C'est déjà une critique à peine voilée de nos sociétés modernes, gérées en grande partie sur la base de données économiques.
Le jour que nous reçûmes la visite de l'économiste, nous faisions justement nos confitures de cassis, de groseille et de framboise. L'économiste aussitôt commença de m'expliquer avec toutes sortes de mots, de chiffres et de formules que nous avions le plus grand tort de faire nos confitures nous-mêmes, que c'était une coutume du Moyen-Âge, que, vu le prix du sucre, du feu, des pots et surtout de notre temps, nous avions tout avantage à manger les bonnes conserves qui nous viennent des usines. Que la question semblait tranchée, que bientôt personne au monde ne commettrait plus pareil, jamais pareil, faute économique. « Attendez, monsieur, m'écriai-je,
Le marchand me vendra-t-il ce que je tiens pour le meilleur et le principal ?
Quoi donc, fit l'économiste ?
Mais l'odeur, monsieur, l'odeur ! Respirez ! La maison tout entière est embaumée. Comme le monde serait triste sans l'odeur des confitures.
L'économiste, à ses yeux, ouvrit des yeux d'herbivore. Je commençais de m'enflammer.
Ici, monsieur, lui dis-je, nous faisons nos confitures uniquement pour leur parfum. Le reste n'a pas d'importance. Quand les confitures sont faites, eh bien, monsieur, nous les jetons.
J'ai dit cela dans un grand mouvement lyrique et pour éblouir le savant.
Ce n'est pas tout à fait vrai. Nous mangeons nos confitures en souvenir de leur parfum.
De nos jours, les parfums sont devenus omniprésents sur la peau des femmes et des hommes, dans les maisons ou les boutiques, dans les aliments et les boissons. La concurrence est dure entre les sociétés industrielles qui créent et fabriquent ces parfums et en tirent un profit considérable. Ces concurrences existaient déjà dès les origines de la mise au point et fabrication des parfums. À ce sujet, lisons encore un extrait du roman de Patrick Souskin, Le parfum origine.
Pélissier n'avait jamais quitté Paris, ni vu de sa vie du jasmin en fleurs, sans parler du fait qu'il n'avait pas le moindre soupçon du travail de géant que cela exigeait pour faire sourdre de 100 000 fleurs de jasmin une pincée de concrète ou quelques gouttes d'essence absolue. Ses succès de parfumeur, il les devait purement et simplement à une découverte faite voilà tantôt 200 ans par le génial Mauritius Frangipani, un Italien du reste, qui avait constaté que les principes des parfums sont solubles dans l'esprit de vin. En mélangeant à l'alcool ces poudres odorantes et en transférant ainsi leur parfum à un liquide évanescent, il avait affranchi le parfum de la matière. Il avait spiritualisé le parfum, il avait inventé l'odeur pure. Bref, il avait créé ce qu'on appelle le parfum. Quel exploit ! Quel événement historique ! Comparable en vérité seulement aux grandes conquêtes du genre humain, comme l'invention de l'écriture par les Assyriens, la géométrie euclidienne, les idées de Platon et la transformation du raisin en vin par les Grecs. Un acte véritablement prométhéen. Mais les grandes conquêtes de l'esprit humain ont toutes leurs revers. Elles valent toujours à l'humanité non seulement des bienfaits, mais aussi contrariétés et misères. Et malheureusement, la magnifique découverte de Frangipani avait eu, elle aussi, des conséquences fâcheuses, car dès lors qu'on eut appris à capter dans des liqueurs et à mettre en flacon l'esprit des fleurs et des plantes, des bois, des résines et des sécrétions animales, l'art de la parfumerie échappa peu à peu au petit nombre d'artisans universellement compétents et devint accessible à des charlatans. Pourvu qu'ils possédassent un nez point trop grossier, comme par exemple cette bête puante de Pélissier.
Odeur des myrtilles dans les grands paniers, que demeure-t-il de nous au grenier ? Odeur des myrtilles dans les grands paniers. Ombre, mon royaume, je retrouverai les anciens arômes et les noirs portraits, les enfants qui dorment, les fauteuils boiteux, les ombres difformes, la trace des jeux. Odeur des myrtilles dans les grands paniers, que demeure-t-il de nous au grenier? Odeur des myrtilles dans les grands paniers. C'était moi peut-être, ou peut-être vous. Les yeux des fenêtres sont vides et fous. Dans les mois de paille, il fait doux guetter. Le cri court des cailles, divisant l'été. Odeur des myrtilles dans les grands paniers. Que demeure-t-il de nous au grenier? Odeur des myrtilles dans les grands paniers. Le vent se repose au bord bleu du temps. Les ronds gris roses marchent sur l'étang. Il me semble entendre un train loin d'ici. Dans les osiers tendres, le jour est assis. Odeur des myrtilles dans les grands paniers. Que demeure-t-il de nous au grenier? Odeur des myrtilles dans les grands paniers. La fin d'août paraisse et les arbres font de lentes caresses au plafond profond. Mémoire qui meurt, photos effacées, rumeurs aux rumeurs des choses passées. Odeur des myrtilles dans les grands paniers. Que demeure-t-il de nous au grenier? Odeur des myrtilles dans les grands paniers.
Eh bien, chers amis auditeurs, nous arrivons au terme de notre émission. J'espère que vous avez une vision nouvelle sur les parfums. Et je voudrais vous signaler donc les personnes qui ont participé à cette émission. Il y avait donc parmi les animateurs Claude Viguier.
Bonsoir.
Jean-Pierre Dejoux et Franck Viguier. Et la technique était assurée par Franck Hivercor. Eh bien, nous vous annonçons aussi que nos prochaines émissions, la prochaine, celle qui va survenir à dimanche prochain, donc le 2 octobre, serait une émission assurée qui s'appelle « Dis-moi ta poésie », qui est une émission de rencontre, qui sera assurée donc par Marie-Stéphane Vaugien, que vous connaissez bien si vous écoutez régulièrement nos émissions. Et elle présentera donc une chanteuse de grande qualité, Anne-Marie Delesse. Eh bien, voilà, pour...
Pour inviter les gens à venir aussi à l'ouvre-boîte à poèmes, à Montmorency. Le premier samedi de chaque mois, on a un coin des poètes où les gens qui disent ou chantent de la poésie sont invités ou même simplement à venir écouter notre réunion, puisque L'Onde Poétique est une émission de l'ouvre-boîte à poèmes. Ne l'oublions pas.
Sans oublier que l'émission qui suit la nôtre maintenant, à l'instant, est l'émission de Rock Power.
Voilà.
Au revoir, bien.
Au revoir.
Bonne soirée, chers amis auditeurs.
écoutez IDFM en DAB+ sur toute l'Île-de-France.